Chapitre 15. L'affaire Joyce Carlyle. Aimez-moi plus qu'avant, puisque j'ai de la peine. George Sand. 1. Le siège du Winterson occupait un étage entier du Flatiron Building, le célèbre immeuble new-yorkais reconnaissable à sa forme triangulaire rappelant celle d'un fer à repasser. Dans le soleil de la fin de matinée, les ornements en colonnes de la façade de calcaire donnaient au bâtiment des airs de temple grec. À l'intérieur, les bureaux du Winterson ressemblaient à ceux d'une start-up ayant levé suffisamment d'argent pour s'offrir les services d'un décorateur à la mode. Toutes les cloisons avaient disparu, au profit d'un espace de travail ouvert, organisé autour de zones de réunion informelles. Un parquet nervuré, presque blanc, courait entre les tables en bois, les tabourets, les canapés bas et les chaises Hems multicolores. Au milieu de la pièce, derrière un comptoir, officiait un barista qui préparait des cappuccinos mousseux. Plus loin, des employés s'affrontaient autour d'une table de ping-pong et d'un baby-foot. Leur moyenne d'âge ne devait pas dépasser 25 ans. Certains donnaient même l'impression d'être des élèves s'apprêtant à passer leur bac. Côté style, il y en avait pour tous les goûts. Du hipster barbu au clone de Zuckerberg pour les garçons, tandis qu'on naviguait chez les filles entre l'uniforme perfecto robe printanière chinée dans une friperie de Williamsburg et des looks plus sophistiqués rappelant les polaroïdes affichés par certaines blogueuses de mode. Cellulaire greffé à la paume de leurs mains, ordinateur portable sur les genoux, tout ce joli monde pianotait en piochant des graines germées et des chips de kale dans de larges saladiers disposés sur des tables. C'était quelque chose qui ne cessait de m'étonner, à quel point, souvent, la réalité dépassait les caricatures. Excusez mon retard, c'est la course depuis 3 jours. Alan Bridges nous accueillit dans un français presque parfait. Je le saluai à mon tour et lui présentai Karadec comme un ancien policier d'élite qui m'aidait dans mon enquête.
J'aime beaucoup la France, affirma-t-il en nous serrant la main. À l'âge de 20 ans, j'ai passé une année d'études à Aix-en-Provence. C'était il y a une éternité. Giscard venait d'être élu président, vous imaginez ?
La petite soixantaine fringante, le rédacteur en chef du Winterson, était vêtu d'une chemise blanche, d'un pantalon de toile claire, d'une veste de tweed légère et de sneakers en cuir. Avec sa grande silhouette, sa voix chaude et son charisme indéniable, Alan Bridges ressemblait à son homonyme, l'acteur Jeff Bridges. C'était assez cocasse, puisque j'avais lu sur Internet que son véritable nom était Alan Kowalkowski et qu'il avait pris ce pseudonyme à 17 ans lorsqu'il écrivait pour le journal de sa fac.
« Suivez-moi, » proposa-t-il, en nous entraînant dans le seul espace cloisonné de l'étage. Depuis que je venais à New York et que je passais devant le Flatiron, je m'étais toujours demandé à quoi ressemblait l'intérieur de cet improbable gratte-ciel, et je n'étais pas déçu. Situé dans une pièce triangulaire tout en longueur, le bureau de Bridges offrait une vue spectaculaire sur Broadway, la 5e Avenue et Madison Square Park.
« Asseyez-vous, » invita-t-il. « Un dernier coup de fil et je suis à vous. » L'actualité s'est un peu emballée à cause de la convention.
Il était impossible de ne pas l'avoir remarqué. Prévue initialement à Minneapolis, la convention primaire républicaine avait été en catastrophe délocalisée à New York en raison d'un fort risque d'ouragan dans le Minnesota. Elle s'était ouverte 2 jours plus tôt au Madison Square Garden et devait se clore ce soir par le discours de Tad Copeland qui venait de remporter la course à l'investiture du parti. Sur 3 écrans plats fixés au mur, branchés en sourdine sur des chaînes d'infos, on pouvait voir des images des différents ténors du parti. Jeb Bush, Carly Fiorina, Ted Cruz, Chris Christie, Tad Copeland. En jetant un coup d'œil sur la table de travail de Bridges, en fait une vieille porte patinée en bois massif posée sur 2 tréteaux de chantier, j'aperçus une photocopie de ma propre notice Wikipédia que le journaliste avait apparemment annotée avec sérieux. Pendant que Bridges essayait d'obtenir une interview exclusive du candidat républicain, je pris la liberté de faire quelques pas dans la pièce. Entre inspiration bouddhiste et taoïste, le bureau était original. Dépouillement, humilité, mise en valeur des imperfections et de l'usure du temps, on sentait que les principes du wabi-sabi avaient guidé celui qui l'avait conçu. Posé sur une étagère rustique, un cadre minimaliste affichait un cliché de Bridges et de Florence Gallo, main dans la main, à Battery Park. C'était la seule photo de toute la pièce. Soudain, l'évidence me sauta aux yeux. Florence et Bridges avaient été amants. C'est uniquement pour cette raison que le rédacteur en chef me recevait. Comme en témoignait la photo, Florence était l'amour fauché,
l'absente à laquelle il pensait peut-être encore tous les jours. Le genre d'image poignante qui me rappelait combien, pendant longtemps, j'avais détesté les appareils photos, ces machines cruelles à créer de la nostalgie. Leurs milliers de déclics trompeurs figeaient dans l'instant une spontanéité déjà évaporée. Puis, tels des fusils à double détente, ils n'atteignaient souvent leur cible que des années plus tard, mais touchaient toujours le cœur. Car dans nombre d'existences, rien n'est plus fort que le passé, l'innocence perdue et les amours enfouis. Rien ne nous remue plus les tripes que le souvenir des occasions manquées et le parfum du bonheur qu'on a laissé filer. C'était aussi pour cette raison que j'avais adoré devenir père. Avoir un enfant est un antidote à cette nostalgie et à cette fraîcheur fanée. Avoir un enfant vous oblige à vous délester d'un passé trop lourd, seule condition pour vous projeter vers demain. Avoir un enfant signifie que son avenir devient plus important que votre passé. Avoir un enfant, c'est être certain que le passé ne triomphera plus jamais sur l'avenir. 2.
Je suis à vous, nous dit Bridges en raccrochant. J'ai lu votre mail avec intérêt, monsieur Barthélémy, mais je n'ai pas bien compris pourquoi vous vous intéressiez à Florence Gallo. Pour gagner du temps, je décidai de ne pas tourner autour du pot. N'avez-vous jamais pensé que l'accident de Florence avait pu être une mise en scène ? Alors que le journaliste fronçait les sourcils, Caradec enfonça le clou. N'avez-vous jamais pensé que Florence avait pu être assassinée ? Stupéfait, Bridges secoua la tête. Pas un instant cela ne m'a effleuré l'esprit, affirma-t-il catégorique. Que je sache, l'enquête a validé sans ambiguïté la thèse de l'accident. Florence allait souvent sauter là-bas lorsqu'elle avait le blues et qu'elle voulait se vider la tête. Sa voiture a été retrouvée dans le parc, à quelques mètres du pont.
Son parachute qui ne s'ouvre pas, c'est la faute à la malchance.
Arrêtez vos conneries. Je ne suis pas spécialiste du base jump, mais c'est le genre d'accident qui arrive dans ce type d'activité. Et puis, si vous souhaitez tuer quelqu'un, il y a des moyens plus évidents que de le balancer d'un pont dans un coin paumé de Virginie, non ?
Qui aurait pu lui en vouloir ?
Au point de la tuer ? Personne à ma connaissance.
Vous souvenez-vous sur quoi travaillait Florence au moment de sa mort ?
Pas vraiment, mais rien d'explosif. Ce n'était pas une chasseuse de scoops ? Pas à proprement parler. Disons plutôt que les scoops venaient à elle, parce qu'elle alliait force de persuasion et compréhension. Florence était quelqu'un de rare, une fille géniale, vraiment intelligente, indépendante, douée d'une véritable empathie, et pour qui l'éthique n'était pas un mot creux. Elle avait une élégance rare dans ce métier, un truc un peu old school, un peu décalé. Il garda le silence pendant quelques secondes, puis lança un regard vers la photo. Ses yeux brillaient. Lorsqu'il se rendit compte que nous avions saisi son trouble, il préféra ne pas cacher ses sentiments. Je vais être clair avec vous. Et ce n'est d'ailleurs un secret pour personne. À l'époque, Florence et moi, nous nous fréquentions. Et nous nous aimions. Il soupira, puis s'affaissa. En 10 secondes, il avait pris 10 ans. C'était une période compliquée pour moi, reprit-il. Avec Carrie, ma femme, nous avions déjà un enfant de 4 ans, et elle était enceinte de 8 mois. Traitez-moi de salaud ou de tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. Oui, j'aimais Florence, oui. J'envisageais de quitter mon épouse enceinte pour elle, parce qu'elle était la femme que j'attendais depuis toujours, la bonne personne qui débarquait enfin dans ma vie. Malheureusement, pas au meilleur moment. En écoutant parler Bridges, j'éprouvais pour lui une sympathie immédiate. Après un bref abattement, une flamme s'était rallumée dans l'œil du journaliste. Le souvenir de Florence devait être si vivace qu'il n'avait pas fallu gratter longtemps pour le réveiller. « Monsieur Barthélémy, pourquoi vous intéressez-vous à Florence ? » demanda-t-il de nouveau. Alors que j'allais répondre, Caradec me lança un regard d'avertissement qui me stoppa net. Et il n'avait pas tort. Bridges était un vieux briscard du journalisme, disposant d'une armée d'enquêteurs. Un mot de trop et le secret de Claire serait grillé. Je pris donc le temps de réfléchir à la formulation de ma réponse avant de la prononcer. Nous avons des raisons sérieuses de penser que la mort de Florence Gallo a été provoquée. Alan Bridges soupira.
Messieurs, je crois qu'on a assez joué. Dans ce métier, c'est information contre information. Je vous ai donné les miennes, à présent c'est votre tour. Qu'avez-vous dans votre musette ?
Je peux vous dire sur quoi enquêtait Florence au moment de sa mort. Presque malgré lui, le rédacteur en chef serra les poings si fort
qu'il s'en enfonça les ongles dans la chair. Cette info l'intéressait, et il avait du mal à le cacher.
Mark avait senti que le rapport de force pouvait basculer en notre faveur.
« Vous savez, Alan, nous sommes dans le même camp, »
assura-t-il.
« Celui de la recherche de la vérité. »
« Mais de quelle vérité parlez-vous, bon sang ?»«
Nous allons y venir, mais avant ça, permettez-moi une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que Florence avait l'habitude d'aller sauter en parachute lorsqu'elle avait le moral en berne. »«
C'est exact. » »«
Qu'est-ce qui vous laisse croire que ce week-end-là, elle était déprimée ?»
Nouveau soupir. Cette fois, les souvenirs n'étaient pas seulement pénibles, ils étaient douloureux.
L'avant-veille de la mort de Florence, c'était un vendredi, ma femme a découvert notre liaison. En début d'après-midi, Carrie a débarqué au journal, enceinte jusqu'aux yeux, folle de rage. Elle m'a hurlé dessus devant tous les employés. Elle disait que je l'avais humiliée et qu'elle allait s'ouvrir les veines, là, devant moi. Lorsqu'elle a aperçu Florence, elle s'est jetée sur elle. Puis elle a saccagé son bureau, renversant tout ce qu'elle pouvait, fracassant son ordinateur contre le mur. Avec une telle violence qu'elle en a eu un malaise et qu'il a fallu la conduire à l'hôpital, où elle a accouché prématurément. Ce récit me laissa pantois. Chaque vie connaît un jour ce type de séisme. Ce moment où les sentiments deviennent des allumettes craquées au milieu d'une forêt desséchée. Le prélude à un incendie capable de ravager toutes nos fondations et de nous entraîner vers l'abîme, ou la renaissance.
La dernière fois que vous avez parlé à Florence, c'était quand ?
Karadec ne perdait pas le fil. Il était à l'aise dans l'interrogatoire et avait pris la mesure de Bridges. Elle m'a laissé un message sur mon répondeur le lendemain. Un message que je n'ai trouvé que le soir.
Et qui disait quoi ?
Le rédacteur en chef réfléchit quelques secondes.
Je viens de t'envoyer un mail, Alan. Fais une copie de la pièce jointe. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Rappelle-moi.
Mark me regarda. On tenait quelque chose, c'était certain. Bridges continua.
Comme je vous l'ai dit, ce samedi après-midi, j'étais à la clinique où ma femme venait d'accoucher. Vous imaginez l'état dans lequel nous étions. J'ai quand même regardé dans ma boîte aux lettres, mais je n'ai pas trouvé le mail de Florence. Rien sur ma boîte personnelle, rien sur ma boîte pro, rien dans mes spams. Son message même était ambigu. Je ne savais pas s'il concernait notre histoire intime ou le boulot.
Il a dû vous intriguer, quand même.
Bien sûr. Dans la soirée, je me suis éclipsé de l'hôpital pour me rendre dans l'appartement de Florence, dans le Lower East Side. Mais elle était absente. J'ai regardé dans l'impasse, derrière l'immeuble où elle avait l'habitude de garer sa voiture. Sa petite Lexus n'était pas là.
Une journaliste à la chevelure rousse toqua contre la porte vitrée et entra dans le bureau.
« Tad Copeland accepte l'interview !» s'écria-t-elle en montrant à Bridges l'écran de l'ordinateur qu'elle tenait dans les mains. On a l'exclusivité de sa première intervention, juste vous et lui, demain matin, sur un terrain de basket, près de Columbus Park. C'est bien, mais vous n'avez pas peur que ça donne l'impression de lui servir la soupe ?
Compte sur moi pour lui poser les bonnes questions, Cross, répondit le rédacteur en chef. Bridges attendit que son employé ait quitté la pièce pour replonger dans son passé. L'annonce de la mort de Florence a été un tsunami. J'ai fini par divorcer. Et ma femme a engagé une guérilla pour me piquer jusqu'à ma dernière chemise et faire en sorte que je ne puisse voir mes enfants qu'occasionnellement. Et au boulot, c'était l'enfer. J'étais plus journaliste. Mon job, ça a été de virer des gens jusqu'à un dépôt de bilan prévisible en 2009. Une des périodes les plus noires de ma vie.
Karadec s'accrocha à l'idée qu'il avait en tête.
Vous n'avez pas cherché le mail de Florence par d'autres moyens ?
Pendant un moment, j'ai plus pensé à ce message. Puis je suis allé jeter un coup d'œil sur la messagerie professionnelle de Florence, mais j'ai rien trouvé non plus. À cette époque, le journal a été victime d'un piratage informatique généralisé. Ma propre boîte mail personnelle a subi des intrusions. C'était une vraie pagaille.
Et ça vous a pas mis la puce à l'oreille ?
Honnêtement, les menaces, les piratages, ça nous arrivait tout le temps. Le New York Herald était un journal progressiste. On était dans les deux dernières années du mandat de George W. Bush. On a passé notre vie à pilonner les faucons et à dénoncer les mensonges de cette administration, alors...
Ce piratage, vous pensez vraiment que ça venait de la sphère politique ?
Pas nécessairement. Des ennemis, on en avait à l'appel. Les associations pro-armes, les anti-IVG, les anti-mariage gay, les anti-immigration, les libertariens... Bref, une bonne moitié des États-Unis d'Amérique.
Et sur l'ordinateur de Florence, il n'y avait rien ?
Justement, je ne savais pas quel ordinateur elle avait utilisé, puisque ma femme avait détruit le sien.
Généralement, Florence vous écrivait sur quelle boîte mail ?
Étant donné notre relation, elle avait pris l'habitude de m'écrire sur mon adresse personnelle. Elle est toujours active, d'ailleurs.
Il sortit une carte de visite de la poche de son veston et, à côté de ses coordonnées professionnelles, nota au stylo une autre adresse. alan.kowalkowski@.net. Bridges n'est pas mon vrai nom, mais ça sonnait mieux lorsque j'ai commencé à écrire. Et puis ça plaisait aux filles. Les yeux dans le vague, il traîna 2 secondes du côté de sa jeunesse perdue, puis revint à la réalité.
Bon, à vous à présent. Sur quoi travaillait Florence au moment de sa mort ?
Cette fois, ce fut moi qui pris la parole. Quelques jours avant son accident, Florence était entrée en contact avec une femme, Joyce Carlyle. Il griffonna le nom sur un bloc-notes posé devant lui. Je continuai. Une femme dont la fille avait été enlevée par un prédateur sexuel en France. Ça vous dit rien ? Il secoua la tête, tandis qu'une certaine déception se peignait sur les traits du journaliste.
Rien dont je me souvienne, en tout cas. Mais je vois pas très bien en quoi ce fait divers sordide peut avoir un rapport avec Joyce Carlyle est morte quelques heures avant Florence. Le coupé-je.
Son visage s'éclaira.
Morte de quoi ?
Officiellement d'une overdose, mais je pense qu'elle a été assassinée.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?
Je vous le dirai lorsque j'en saurai plus. Bridges croisa les mains et se frotta les paupières avec les pouces.
Je vais enquêter sur cette Joyce Carlyle.
Il se leva et désigna la ruche bourdonnante derrière la vitre de son bureau.
Les petits gamins que vous voyez là, ils n'ont pas la tête de l'emploi, mais ce sont les meilleurs muckrakers que je connaisse, de vraies fouilles merde. S'il y a quelque chose à trouver sur cette femme, ils le trouveront.
Je sortis de ma poche les clés que m'avait remises Gladys. Si vous avez le temps, allez donc jeter un coup d'œil là-bas.
Qu'est-ce que ça ouvre ?
Demanda-t-il en attrapant le trousseau. Un garde-meuble dans lequel les sœurs de Joyce ont entreposé ses affaires.
On passera y faire un tour, promit-il.
Tandis qu'il nous raccompagnait jusqu'à l'ascenseur, je ressentis une impression d'inachevé. La même sensation que j'éprouvais parfois à la fin de l'écriture d'un chapitre. Un bon chapitre doit contenir un début, un milieu et une fin. Ici, il me semblait que j'étais passé à côté de mon sujet, à côté de l'essentiel. Qu'est-ce que j'aurais dû voir ? Quelles questions n'avais-je pas posées ? Bridges Kowalkowski nous serra la main, et alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'appuyai fermement la main pour les bloquer.
« Florence habitait où ? »
demandai-je à Alan. Le rédacteur en chef se retourna.
« Je vous l'ai déjà dit, dans le Lower East Side.
Mais à quelle adresse ? » ?»«
Un petit immeuble à l'angle du Bowery et de Bond Street. »
Je lançai un coup d'œil fiévreux à Karadec. C'était précisément l'endroit d'où avait été passé le coup de fil signalant l'agression de Joyce.